Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Ils arrivèrent enfin, ces fameux comices. Dès le matin de la solennité, tous les habitants sur les portes s'entretenaient des préparatifs. On avait enguirlandé de lierre le fronton de la mairie, une tente dans un pré était dressée pour le festin, et au milieu de la place devant l'église, une espèce de bombarde devait signaler l'arrivée de monsieur le préfet et le nom des cultivateurs lauréats. La garde nationale de Buchy, il n'y en avait point à Yonville, était venue s'adjoindre au corps des pompiers dont Binet était le capitaine. Il portait ce jour-là un col encore plus haut que de coutume, et sanglé dans sa tunique, il avait le buste si raide et immobile que toute la partie vitale de sa personne semblait être descendue dans ses deux jambes qui se levaient en cadence à pas marqués d'un seul mouvement. Comme une rivalité subsistait entre le percepteur et le colonel, l'un et l'autre, pour montrer leur talent, faisaient à part manœuvrer leurs hommes. On voyait alternativement passer et repasser les épaulettes rouges et les plastons noirs. Cela ne finissait pas, et toujours recommençait. Jamais il n'y avait eu pareil déploiement de pompe. Plusieurs bourgeois, dès la veille, avaient lavé leur maison. Des drapeaux tricolores pendaient aux fenêtres entr'ouvertes. Tous les cabarets étaient pleins, et par le beau temps qu'il faisait, les bonnets empesés, les croix d'or et les fichus de couleur paraissaient plus blancs que neige, miroitaient au soleil clair et relevaient de leur bigarrure éparpillée la sombre monotonie des redingotes et des bourgerons bleus. Les fermières des environs retiraient en descendant de cheval la grosse épingle qui leur serrait autour du corps leur robe retroussée de peur des taches. Et les maris, au contraire, afin de ménager leur chapeau, gardaient par-dessus des mouchoirs de poche dont ils tenaient un angle entre les dents. La foule arrivait dans la grande rue par les deux bouts du village. Il s'en dégorgeait des ruelles, des allées, des maisons, et l'on entendait de temps à autre retomber les marteaux des portes derrière les bourgeoises en gants de fil qui sortaient pour aller voir la fête. Ce que l'on admirait surtout, c'était deux longs ifs couverts de lampions qui flanquaient une estrade où s'allaient tenir les autorités. Et il y avait de plus, contre les quatre colonnes de la mairie, quatre manières de Gaules, portant chacune un petit étendard de toile verdâtre, enrichi d'inscriptions en lettres d'or. On lisait sur l'un « au commerce », sur l'autre « à l'agriculture », sur le troisième « à l'industrie » et sur le quatrième « aux beaux-arts ». Mais la jubilation qui épanouissait tous les visages paraissait assombrir Madame Lefrançois, l'aubergiste. Debout, sur les marches de sa cuisine, elle murmurait dans son menton « Quelle bêtise, mais quelle bêtise !» avec leur baraque de toile. Croit-il que le préfet sera bien aise de dîner là-bas sous une tente comme un saltimbanque ? Ils appellent ces embarras-là faire le bien du pays, ce n'était pas la peine alors d'aller chercher un gargotier à Neufchâtel. Et pour qui ? Pour des vachers, des va-nu-pieds ? L'apothicaire passa. Il avait un habit noir, un pantalon de nankin, des souliers de castor et par extraordinaire un chapeau. Un chapeau bas de forme. « Serviteur, dit-il, excusez-moi, je suis pressé. » Et comme la grosse veuve lui demanda où il allait, « Cela vous semble drôle, n'est-ce pas ? moi qui reste toujours plus confiné dans mon laboratoire que le rat du bonhomme dans son fromage. Mais quel fromage ? Fit l'aubergiste. Non, non, rien, ce n'est rien, reprit Homais. Je voulais vous exprimer seulement, Madame Lefrançois, que je demeure d'habitude tout reclus chez moi. Aujourd'hui, cependant, vu la circonstance, il faut bien que... Ah, vous allez là-bas, dit-elle, avec un air de dédain. Oui, j'y vais, répliqua l'apothicaire étonné. Ne fais-je point partie de la commission consultative ? La mère Lefrançois le considéra quelques minutes et finit par répondre en souriant. Bah, « C'est autre chose. Mais qu'est-ce que la culture vous regarde ? Vous vous y entendez donc ?»« Bah, certainement, je m'y entends, puisque je suis pharmacien, c'est-à-dire chimiste. » Et la chimie, Madame Lefrançois, ayant pour objet la connaissance de l'action réciproque et moléculaire de tous les corps de la nature, il s'ensuit que l'agriculture se trouve comprise dans son domaine. En effet, composition des engrais, fermentation des liquides, analyse des gaz et influence des miasmes, qu'est-ce que c'est que tout cela, je vous le demande, si ce n'est de la chimie pure et simple ? L'aubergiste ne répondit rien. Homais continua. Croyez-vous qu'il faille, pour être agronome, avoir soi-même labouré la terre ou engraissé les volailles ? Mais il faut connaître plutôt la constitution des substances dont il s'agit, les gisements géologiques, les actions atmosphériques, la quantité des terrains, des minéraux, des eaux, la densité des différents corps et leur capillarité, que sais-je. Et il faut posséder à fond tous les principes d'hygiène pour diriger et critiquer la construction des bâtiments, le régime des animaux, l'alimentation des domestiques. Il faut encore, Madame Lefrançois, posséder la botanique pour voir discerner les plantes, entendez-vous ? Quelles sont les salutaires d'avec les délétères, quelles sont les improductives et quelles les nutritives, s'il est bon de les arracher par-ci et de les ressemer par-là, de propager les unes, de détruire les autres. Bref, il faut se tenir au courant de la science par les brochures et papiers publics, être toujours en haleine afin d'indiquer les améliorations. L'aubergiste ne quittait point des yeux la porte du café français. Et le pharmacien poursuivit. Plût à Dieu que nos agriculteurs fussent des chimistes, ou que du moins ils écoutassent davantage les conseils de la science. Ainsi, moi, j'ai dernièrement écrit un fort opuscule, un mémoire de plus de 72 pages intitulé « Du cidre, de sa fabrication et de ses effets », suivi de quelques réflexions nouvelles à ce sujet, que j'ai envoyé à la Société agronomique de Rouen. Ce qui m'a même valu l'honneur d'être reçu parmi ses membres, section d'agriculture, classe de pomologie. Eh bien, si mon ouvrage avait été livré à la publicité... Mais l'apothicaire s'arrêta, tant Madame Lefrançois paraissait préoccupée. « Voyez-les donc, disait-elle, on n'y comprend rien, une gargote semblable !» Et avec des haussements d'épaule qui tiraient sur sa poitrine les mailles de son tricot, elle montrait des deux mains le cabaret de son rival, d'où sortaient alors des chansons. « Oh, du reste, il n'en a pas pour longtemps, » ajouta-t-elle. « Avant 8 jours, tout est fini. » Homais se recula de stupéfaction. Elle descendit ses 3 marches et, lui parlant à l'oreille, « Comment ? Vous ne savez pas cela ? On va le saisir cette semaine, c'est l'heureux qui le fait vendre, il l'a assassiné de billets. » L'hôtesse donc se mit à lui raconter cette histoire qu'elle savait par Théodore, le domestique de M. Guillaumin. Et bien qu'elle exécrât Tellier, elle blâmait l'heureux. C'était un enjôleur, un rampant. « Ah, tenez, dit-elle, le voilà sous l'éole. Il salue Madame Bovary qui a un chapeau vert. Elle est même au bras de boulanger. » « Madame Bovary ? » fit Homais. « Je m'empresse d'aller lui offrir mes hommages. Peut-être qu'elle sera bien aise d'avoir une place dans l'enceinte, sous le péristyle. » Et sans écouter la mère Lefrançois, qui le rappelait pour bien lui en compter plus long, le pharmacien s'éloigna d'un pas rapide, sourire aux lèvres et jarret tendu, distribuant de droite et de gauche quantité de salutations et emplissant beaucoup d'espace avec les grandes basques de son habit noir qui flottaient au vent derrière lui. Rodolphe, l'ayant aperçu de loin, avait pris un train rapide, mais Madame Bovary s'essouffla. Il se ralentit donc et lui dit en souriant d'un ton brutal « C'est pour éviter ce gros bonhomme, vous savez, l'apothicaire !» Elle lui donna un coup de coude. « Qu'est-ce que cela signifie ?» se demanda-t-il. Et il la considéra du coin de l'œil tout en continuant à marcher. Son profil était si calme que l'on n'y devinait rien. Il se détachait en pleine lumière dans l'ovale de sa capote qui avait des rubans pâles ressemblant à des feuilles de roseau. Ses yeux aux longs cils courbes regardaient devant elle, et quoique bien ouverts, ils semblaient un peu bridés par les pommettes à cause du sang qui battait doucement sous sa peau fine. Une couleur rose traversait la cloison de son nez. Elle inclinait la tête sur l'épaule, et l'on voyait entre ses lèvres le bout nacré de ses dents blanches. « Se moque-t-elle de moi ?» songeait Rodolphe. Ce geste d'Emma pourtant n'avait été qu'un avertissement, car M. Lheureux les accompagnait, et il leur parlait de temps à autre comme pour entrer en conversation. « Voici une journée superbe, tout le monde est dehors, les vents sont à l'est !» Et Madame Bovary, non plus que Rodolphe, ne lui répondait guère, tandis qu'au moindre mouvement qu'il faisait, il se rapprochait en disant « Plaît-il ?» et portait la main à son chapeau. Quand ils furent devant la maison du maréchal, au lieu de suivre la route jusqu'à la barrière, Rodolphe brusquement prit un sentier. Entraînant Madame Bovary, il cria « Bonsoir, Monsieur Lheureux, au plaisir !»« Comme vous l'avez congédié, » dit-elle en riant. Pourquoi, reprit-il, se laisser envahir par les autres? Et puisque aujourd'hui j'ai le bonheur d'être avec vous, Emma rougit. Il n'acheva point sa phrase. Alors il parla du beau temps et du plaisir de marcher sur l'herbe. Quelques marguerites étaient repoussées. Voici les gentilles pâquerettes, dit-il, et de quoi fournir bien des oracles à toutes les amoureuses du pays. Il ajouta, « Si j'en cueillais, qu'en pensez-vous »« Est-ce que vous êtes amoureux ? » fit-elle en toussant un peu. « Eh, qui sait ?» répondit Rodolphe. Le pré commençait à se remplir et les ménagères vous heurtaient avec leurs grands parapluies, leurs paniers et leurs bambins. Souvent, il fallait se déranger devant une longue file de campagnardes servantes en bas bleus à souliers plats, à bagues d'argent et qui sentaient le lait quand on passait près d'elles. Elles marchaient en se tenant par la main et se répondaient ainsi sur toute la longueur de la prairie, depuis la ligne des Trembles jusqu'à la tente du banquet. Mais c'était le moment de l'examen et les cultivateurs, les uns après les autres, entrait dans une manière d'hippodrome que formait une longue corde portée sur des bâtons. Les bêtes étaient là, le nez tourné vers la ficelle et alignant confusement leurs croupes inégales. Les porcs assoupis enfonçaient en terre leurs groins. Les veaux beuglaient, les brebis bêlaient, les vaches, un jarret replié, étalaient leur ventre sur le gazon et ruminant lentement clignaient leurs paupières lourdes sous les moucherons qui bourdonnaient autour d'elles. Des charretiers, les bras nus, retenaient par le licou des étalons cabrés qui hennissaient à plein naseau du côté des juments. Elles restaient paisibles, allongeant la tête et la crinière pendante, tandis que leurs poulains se reposaient à leur ombre où venaient les téter quelquefois. Et sur la longue ondulation de tous ces corps tassés, on voyait se lever au vent comme un flot quelques crinières blanches, ou bien saillir des cornes aiguës et des têtes d'hommes qui couraient. À l'écart, en dehors des lices, 100 pas plus loin, il y avait un grand taureau noir muselé, portant un cercle de fer à la narine et qui ne bougeait pas plus qu'une bête de bronze. Un enfant en haillon le tenait par une corde.
Nous aurons plein d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux et d'étranges fleurs sur des étagères. ciels plus beaux.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Madame Bovary, de Gustave Flaubert, suite. Cependant, entre les deux rangées, des messieurs s'avançaient d'un pas lourd, examinant chaque animal, puis se consultaient à voix basse. L'un d'eux, qui semblait plus considérable, prenait tout en marchant quelques notes sur un album. C'était le président du jury, Monsieur Desroseraies de la Panville. Sitôt qu'il reconnut Rodolphe, il s'avança vivement et lui dit en souriant d'un air aimable « Comment, monsieur Boulanger, vous nous abandonnez ?» Rodolphe protesta qu'il allait revenir. Mais quand le président eut disparu, « Ma foi non, reprit-il, je n'irai pas. Votre compagnie vaut bien la sienne. » Et tout en se moquant des comices, Rodolphe, pour circuler plus à l'aise, montrait aux gendarmes sa pancarte bleue, et même il s'arrêtait parfois devant quelques beaux sujets que Madame Bovary n'admirait guère. Il s'en aperçut, et alors se mit à faire des plaisanteries sur les dames d'Yonville à propos de leur toilette. Puis il s'excusa lui-même du négligé de la sienne. Elle avait cette incohérence des choses communes et recherchées, où le vulgaire d'habitude croit entrevoir la révélation d'une existence excentrique, les désordres du sentiment, les tyrannies de l'art et toujours un certain mépris des conventions sociales, ce qui le séduit ou l'exaspère. Ainsi sa chemise de batiste à manchettes plissées bouffait au hasard du vent dans l'ouverture de son gilet, qui était de coutil gris, et son pantalon à larges raies découvrait aux chevilles ses bottines de nankin claquées de cuir verni. Elles étaient si vernies que l'herbe s'y reflétait. Il foulait avec elles les crottins de cheval, une main dans la poche de sa veste et son chapeau de paille mis de côté. D'ailleurs, ajouta-t-il, quand on habite la campagne, « Tout est peine perdue, » dit Emma. « C'est vrai, » répliqua Rodolphe. « Songez que pas un seul de ces braves gens n'est capable de comprendre même la tournure d'un habit. » Alors ils parlèrent de la médiocrité provinciale, des existences qu'elle étouffait, des illusions qui s'y perdaient. « Aussi, disait Rodolphe, je m'enfonce dans une tristesse. Vous, fit-elle avec étonnement, mais je vous croyais très gai. Ah oui, d'apparence, parce qu'au milieu du monde, je sais mettre sur mon visage un masque railleur, et cependant, que de fois, à la vue d'un cimetière au clair de lune, je me suis demandé si je ne ferais pas mieux d'aller rejoindre ceux qui sont à dormir. Oh, et vos amis, dit-elle, vous n'y pensez pas. Mes amis, lesquels donc? En ai-je? Qui s'inquiète de moi? Et il accompagna ces derniers mots d'une sorte de sifflement entre ses lèvres. Mais ils furent obligés de s'écarter l'un de l'autre à cause d'un grand échafaudage de chaises qu'un homme portait derrière eux. Il en était si surchargé que l'on apercevait seulement la pointe de ses sabots avec le bout de ses deux bras écartés droit. C'était Lestiboudois, le fossoyeur, qui charriait dans la multitude les chaises de l'église. Plein d'imagination pour tout ce qui concernait ses intérêts, il avait découvert ce moyen de tirer parti de ses comices, et son idée lui réussissait car il ne savait plus auquel entendre. En effet, les villageois qui avaient chaud se disputaient ces sièges dont la paille sentait l'encens, et s'appuyaient contre leurs gros dossiers, salis par la cire des cierges, avec une certaine vénération. Madame Bovary reprit le bras de Rodolphe. Il continua comme se parlant à lui-même. « Oui, tant de choses m'ont manqué, toujours seul. Ah, si j'avais eu un but dans la vie, si j'eusse rencontré une affection, si j'avais trouvé quelqu'un. Oh, comme j'aurais dépensé toute l'énergie dont je suis capable, j'aurais surmonté tout, brisé tout. » « Il me semble pourtant, dit Emma, que vous n'êtes guère à plaindre. »« Ah, vous trouvez ? » fit Rodolphe. « Car enfin, reprit-elle, vous êtes libre. » Elle hésita. « Riche. » « Ne vous moquez pas de moi, répondit-il. » Et elle jurait qu'elle ne se moquait pas quand un coup de canon retentit. Aussitôt, on se poussa pêle-mêle vers le village. C'était une fausse alerte. Monsieur le préfet n'arriva pas. Et les membres du jury se trouvaient fort embarrassés, ne sachant s'il fallait commencer la séance ou bien attendre encore. Enfin, au fond de la place, parut un grand landau de louages, traîné par deux chevaux maigres que fouettait à tour de bras un cocher en chapeau blanc. Binet n'eut que le temps de crier « Aux armes !» et le colonel de l'imiter. On courut vers les faisceaux, on se précipita. Quelques-uns même oublièrent leur col. Mais l'équipage préfectoral sembla deviner cet embarras et les deux rosses accouplées, se dandinant sur leurs chaînettes, arrivèrent au petit trot devant le péristyle de la mairie juste au moment où la garde nationale et les pompiers s'y déployaient, tambour battant et marquant le pas. « Balancez !» cria Binet. « Halte !» cria le colonel. « Par fil à gauche !» Et après un port d'armes, où le cliquetis des capucines se déroulant sonna comme un chaudron de cuivre qui dégringole les escaliers, tous les fusils retombèrent. Alors, on vit descendre du carrosse un monsieur vêtu d'un habit court à broderie d'argent, chauve sur le front, portant toupet à l'occiput, ayant le teint blafard et l'apparence des plus bénignes. Ses deux yeux, fort gros et couverts de paupières épaisses, se fermaient à demi pour considérer la multitude en même temps qu'il levait son nez pointu et faisait sourire sa bouche rentrée. Il reconnut le maire à son écharpe et lui exposa que monsieur le préfet n'avait pu venir, il était lui un conseiller de préfecture. Puis il ajouta quelques excuses. Tuvache y répondit par des civilités, l'autre s'avoua confus, et ils restaient ainsi face à face et leurs deux fronts se touchant presque avec les membres du jury tout alentour, le conseil municipal, les notables, la garde nationale et la foule. Monsieur le conseiller, appuyant contre sa poitrine son petit tricorne noir, réitérait ses salutations, tandis que Tuvache, courbé comme un arc, souriait aussi. Bégayait, cherchait ses phrases, protestait de son dévouement à la monarchie et de l'honneur que l'on faisait à Yonville. Hippolyte, le garçon de l'auberge, vint prendre par la bride les chevaux du cocher, et tout en boitant de son pied beau, il les conduisit sous le porche du Lion d'Or, où beaucoup de paysans s'amassèrent à regarder la voiture. Le tambour battit, l'obusier tonna, et les messieurs à la file montèrent s'asseoir sur l'estrade dans les fauteuils en Utrecht rouge qu'avait prêté Madame Tuvache. Tous ces gens-là se ressemblaient. Leurs molles figures blondes, un peu hâlées par le soleil, avaient la couleur du cidre doux, et leurs favoris bouffants s'échappaient de grands cols roides que maintenaient des cravates blanches à rosettes bien étalées. Tous les gilets étaient de velours, à châle. Toutes les montres portaient au bout d'un long ruban quelques cachets ovales en cornaline. Et l'on appuyait ses deux mains sur ses deux cuisses, en écartant avec soin la fourche du pantalon dont le drap non décati reluisait plus brillamment que le cuir des fortes bottes. Les dames de la société se tenaient derrière, sous le vestibule, entre les colonnes, tandis que les communs de la foule étaient en face, debout ou bien assis sur des chaises. En effet, Lestiboudois avait apporté là toutes celles qu'il avait déménagées de la prairie, et même il courait à chaque minute en chercher d'autres dans l'église, et causait un tel encombrement par son commerce que l'on avait grand-peine à parvenir jusqu'au petit escalier de l'estrade. « Moi, je trouve, » dit Monsieur Lheureux, s'adressant au pharmacien qui passait pour gagner sa place, « que l'on aurait dû planter là deux mâts vénitiens. » Avec quelque chose d'un peu sévère et de riche, comme nouveauté, c'eût été un fort joli coup d'œil. Certes, répondit Homais, mais que voulez-vous? C'est le maire qui a tout pris sous son bonnet. Il n'a pas grand goût, ce pauvre Tuvache. Il est même complètement dénué de ce qui s'appelle le génie des arts.
Cette lecture est terminée pour ce soir. Et nous nous retrouverons donc demain. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.